Imaginons un instant l'achat du tout dernier smartphone haut de gamme, le truc vraiment disponible sur le marché, là.
Ouais, la Rolls-Royce des téléphones.
C'est ça. Le design est impeccable, le processeur affiche des performances inégalées, l'écran est une merveille absolue, bref, un vrai bijou d'ingénierie. Mais, pour une raison totalement obscure, l'utilisateur décide de refuser systématiquement toutes les mises à jour logicielles. Et ça, pendant 10 ans.
Ah oui, donc le bouton ignoré à chaque notification, quoi.
Exactement. À chaque fois qu'une alerte propose une nouvelle version, hop, elle est repoussée à plus tard. Alors, au début, les premiers mois, tout fonctionne à merveille.
Forcément.
Mais de manière assez insidieuse, les applications commencent à ralentir, les nouvelles fonctionnalités deviennent inaccessibles, et au final, ce matériel qui était à la pointe devient ultra vulnérable aux failles de sécurité.
Il devient incapable de communiquer avec le reste du monde, en fait.
Voilà. Totalement obsolète. Le matériel physique est là, il est intact, mais son logiciel, lui, est resté complètement figé dans un monde qui n'existe plus. Et c'est vraiment cette dynamique de déclassement silencieux qui nous intéresse aujourd'hui.
Et c'est une image qui illustre vraiment à la perfection le mécanisme qui frappe des économies entières en ce moment.
Ah oui.
Ouais.
Si on transpose cette métaphore à l'échelle d'une nation, le matériel, ce sont les infrastructures physiques, c'est-à-dire les usines de dernière génération, les parcs éoliens, les ports en eau profonde, les zones franches, tout ça. D'accord, le hardware de l'économie, en somme.
Tout à fait. Et le logiciel, pour le coup, c'est le capital humain, c'est-à-dire les compétences réelles, actualisées, des travailleurs qui font tourner toutes ces infrastructures.
Ouais, parce qu'avoir les meilleures usines du monde, ça ne sert pas à grand-chose si le logiciel humain date d'il y a 20 ans.
C'est exactement ça.
Et c'est justement la mission de notre exploration d'aujourd'hui. On va plonger dans un dossier hyper fouillé qui a été publié par le magazine L'OGM Media dans son édition Eco-Business de la mi-juin 2026.
Un dossier très riche, oui.
Vraiment. Et ce dossier s'appuie lui-même sur un rapport détaillé du CSE, donc le Conseil économique, social et environnemental. Le but de notre analyse, c'est de décortiquer un paradoxe assez saisissant sur la formation continue au Maroc.
Un paradoxe qui saute aux yeux quand on lit les chiffres.
Totalement. Comment un pays qui déploie une énergie phénoménale pour devenir un pôle technologique mondial peut-il aussi peu former ses travailleurs adultes? On va essayer de tirer les leçons de ces documents pour comprendre pourquoi la survie économique se joue maintenant, bien après le diplôme initial.
Le contexte macroéconomique que pose le rapport, il est vraiment crucial pour saisir l'urgence. Le Maroc a une ambition très claire aujourd'hui.
S'imposer comme un hub entre l'Europe et l'Afrique.
Exactement. Et ça passe par l'attraction d'industries qui sont extrêmement exigeantes. On parle de l'aéronautique du côté de Nouasseur, de la construction automobile autour de Tanger, de l'offshoring de pointe, des énergies renouvelables.
Donc, ils construisent ce fameux matériel haut de gamme.
Ouais, le pays construit un matériel de classe mondiale. Mais le rapport du CES pointe une faille vraiment sévère du côté du logiciel. Le pays a un mal fou à requalifier les adultes qui sont déjà sur le marché du travail.
C'est-à-dire que le système éducatif produit des jeunes diplômés, mais après c'est.
Après, une fois insérés en entreprise, ces travailleurs ne reçoivent plus aucune mise à jour, pour reprendre votre image.
Et le dossier parle d'ailleurs d'un décrochage silencieux. Et honnêtement, pour mesurer la gravité du truc, les statistiques du CES sont implacables. Si on prend l'année 2022, qui sert de référence à l'étude...
Ouais, l'année de référence.
Le système de financement de la formation continue, il repose sur une taxe de formation professionnelle que toutes les entreprises payent, on est d'accord, hein ?
Oui, tout à fait.
Eh bien, sur près de 315 000 entreprises cotisantes, il n'y en a que 1647 qui ont réellement pu bénéficier du mécanisme de financement. Ce qu'on appelle les contrats spéciaux de formation.
1647 sur 315 000, ça représente moins le 0,5%, un demi-pourcent, c'est hallucinant.
C'est dingue.
À ce niveau-là, ce n'est plus une marge d'erreur ou un simple petit retard administratif, quoi. L'analyse montre clairement qu'on est face à une défaillance systémique.
Le système n'atteint pas sa cible.
Pas du tout. Le mécanisme censé irriguer l'économie en compétences nouvelles est complètement à l'arrêt.
L'analogie qui m'est venue tout de suite en lisant ça, c'est la salle de sport de quartier.
Ah, la fameuse salle de sport.
Oui, c'est comme si la loi obligeait tous les habitants à payer un abonnement mensuel. L'argent rentre dans les caisses de la salle, pas de problème. Mais la porte d'entrée est tellement lourde, avec des serrures tellement tordues, que sur 1000 personnes qui ont payé, il n'y en a que 5 qui arrivent à l'ouvrir.
Et les 995 autres restent sur le trottoir.
Voilà. Mais je me pose une question candide. Est-ce que c'est vraiment un problème de serrure ? Je veux dire, est-ce que ce taux de 0,5% ne traduit pas plutôt un désintérêt total des entreprises? Peut-être qu'elles n'ont juste pas envie de s'entraîner.
Alors, c'est une vraie question, mais le rapport réfute complètement cette hypothèse.
Ah bon?
Ouais, les entreprises marocaines, et surtout celles qui sont exposées à la concurrence internationale, elles savent très bien qu'elles doivent monter en compétences. Le blocage, c'est bel et bien la serrure, la paralysie administrative pure et dure.
Donc, le dispositif des contrats spéciaux de formation.
C'est décrit dans les sources comme un véritable parcours du combattant, d'une rigidité étouffante. En fait, pour qu'une entreprise obtienne un financement, elle ne peut pas juste se dire « Tiens, j'ai un besoin, j'inscris mon salarié ».
Ce serait trop simple.
Bah oui, elle doit anticiper un plan de formation des mois à l'avance, monter un dossier technique ultra lourd et surtout prier pour que la formation demandée rentre dans un catalogue préétabli.
Un catalogue qui doit sûrement être un peu déconnecté du terrain, non?
Totalement déconnecté des réalités mouvantes de l'économie, ouais.
Donc, si je comprends bien, si une entreprise a besoin, disons, d'une formation super pointue sur une nouvelle méthode de soudure pour l'aéronautique qui vient tout juste de sortir...
Eh bien, elle a de fortes chances de voir son dossier rejeté, tout simplement parce que cette méthode n'est pas encore dans les fameux formulaires de l'administration.
Waouh. C'est lunaire.
C'est un des freins majeurs, oui. On est dans une logique de guichet de contrôle, pas du tout de service. Et en plus, il y a l'aspect financier.
L'avance des frais.
Exactement. L'entreprise doit avancer 100% des frais. Ensuite, elle soumet ses tonnes de justificatifs et elle doit attendre que des commissions délibèrent. Les délais de remboursement mentionnés dans le dossier, ça peut s'étirer sur des mois, voire plus d'un an.
Mais qui peut se permettre de bloquer de la trésorerie comme ça?
Presque personne. En tout cas, peu d'acteurs économiques.
Qui crée une fracture énorme, en fait. Si la procédure demande une avance de trésorerie, des mois d'attente et des dossiers techniques impossibles, bah, il n'y a que les multinationales qui peuvent suivre.
Bien sûr, celles qui ont des départements RH entiers.
Voilà, avec des juristes, des spécialistes dont le seul boulot est d'optimiser ses financements. Du coup, la bureaucratie, ça devient carrément une barrière à l'entrée, qui exclut les petits acteurs d'office.
Et c'est là que ça devient un vrai problème de cohésion macroéconomique. Le dossier de l'ODG Media met un coup de projecteur très fort sur les TPME, les très petites, petites et moyennes entreprises.
Qui sont le cœur de l'économie.
Exactement. Elles constituent l'écrasante majorité du tissu économique. Elles créent le plus d'emplois, et pourtant, ce sont les grandes oubliées de l'effort de formation.
Parce qu'un patron de PME de 20 personnes, il gère la prod, les clients, les fournisseurs.
Il n'a clairement pas le temps de lire un manuel de procédure de 50 pages.
C'est clair. Mais j'aimerais qu'on pousse un peu la réflexion. Parce que la lourdeur administrative, ça n'explique peut-être pas tout. Le dossier mentionne aussi un frein plus psychologique, non?
Oui, la peur de l'exode des talents.
Voilà. On entend hyper souvent ce discours chez les patrons de PME. Ils se disent « Pourquoi je vais payer une blinde pour former un technicien si c'est pour qu'il prenne son beau diplôme tout neuf et aille voir le concurrent d'en face ?»
C'est une réaction humaine, souvent à pression de la trésorerie. La formation est vue comme une charge à haut risque, pas comme un investissement.
Mais c'est une logique tellement ironique. S'inquiéter qu'un employé formé parte, c'est complètement oublier le risque inverse. Qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas formé et qu'il reste?
Et c'est exactement ce que démontre le CECE. Ce calcul à courte vue est désastreux. Le coût de la non-formation, il est invisible à la fin du mois sur le bilan, mais il ronge l'entreprise de l'intérieur.
Il faut vraiment qu'on détaille ce coût invisible. Concrètement, si je suis un sous-traitant automobile à Tanger, je décide de ne pas former mes ouvriers aux nouveaux alliages, j'économise l'argent de la formation, il est où le piège?
Le piège, il est direct sur les lignes de production. Le rapport est très clair là-dessus. Un personnel non actualisé, ça donne un taux de rebut plus élevé, des erreurs de manipulation sur des machines qui coûtent une fortune et des temps de fabrication plus longs.
Donc on perd face aux concurrents.
Face aux concurrents asiatiques ou d'Europe de l'Est, oui. Et puis, il y a la question cruciale, des normes.
Les certifications, c'est ça?
Voilà, l'industrie mondiale est de plus en plus stricte sur la qualité et l'environnement. Une PME qui ne forme pas ses employés à ces nouvelles normes perd ses agréments.
Et si elle perd ses agréments, elle ne peut plus exporter?
Exactement. Elle s'exclut des chaînes de valeur mondiales et se condamne à faire de la sous-traitance bas de gamme.
Le rapport parle aussi d'une sorte de dépendance toxique aux dirigeants, je crois.
Oui, c'est un effet collatéral très fort. Si les employés ne montent pas en compétences, bah, le patron devient le seul cerveau de la boîte.
Le seul capable de résoudre un problème inédit, quoi.
C'est ça. Il se retrouve à micromanager la moindre panne, à relire tous les contrats. L'entreprise ne peut plus grandir parce qu'elle est limitée par la bande passante d'une seule personne.
Ce qui nous amène à cette fameuse économie à deux vitesses, soulignée par les sources.
Une vraie fracture, oui. D'un côté, une économie structurée, les grandes boîtes qui captent l'argent de la formation, se digitalisent et attirent les talents.
Et de l'autre, une myriade de petites boîtes bloquées dans le passé.
Des TPME sous-formées, ultra vulnérables à la moindre crise, leurs marges fondent et elles glissent doucement vers la précarité ou l'informel. Donc, réformer la formation, c'est vraiment pas un luxe bureaucratique, c'est un sauvetage économique.
Et ça, ce concept de fracture, il devient d'autant plus terrifiant avec ce qui arrive en ce moment. Parce que là, on a un événement extérieur massif qui bouleverse tout.
L'intelligence artificielle.
Exactement. Ce qui était une perte d'optimisation hier devient une urgence de survie absolue aujourd'hui. Les sources qu'on analyse abordent de front l'onde de choc de l'IA et de l'automatisation avancée, et le paradigme change du tout au tout.
C'est clair. Pendant des décennies, on se disait que l'automatisation menaçait surtout le travail manuel sur les chaînes de montage.
Les robots dans les usines, quoi.
Voilà. Mais le dossier de l'ODJ Média montre bien que la vague actuelle de l'IA générative frappe de plein fouet les emplois de service, les tâches cognitives et administratives.
Ce qui met le secteur de l'offshoring en première ligne, sachant que c'est un pilier de la création d'emplois au Maroc.
Tout à fait.
Prenons l'exemple d'un centre d'appel à Casablanca, avec 500 personnes qui font du support client basique. Aujourd'hui, on a des agents conversationnels dopés à l'IA qui peuvent gérer une énorme partie de ça, dans toutes les langues, avec une fluidité hallucinante.
Et les postes de ces opérateurs ne vont pas s'évaporer demain matin, mais leur nature va radicalement changer. C'est vraiment le point de bascule.
Comment ça ?
Si l'entreprise d'offshoring veut survivre, elle doit monter en gamme, proposer des services plus complexes. L'employé ne peut plus juste lire un script.
Il doit auditer ce que fait l'IA, c'est ça ?
Exactement. Il doit gérer des cas émotionnellement complexes, devenir analyste de données. Et ça demande une requalification massive. Aucun secteur n'est épargné. Avocats, comptables, commerciaux.
Donc une formation initiale acquise à 20 ans, même dans la meilleure fac du monde.
Elle devient obsolète en quelques années. La technologie va trop vite.
Et c'est là que la métaphore de la machine à café ou de la salle de sport prend un énorme coup de vieux.
Oui, le paradigme change.
Pendant hyper longtemps, la formation continue, c'était le petit plus des RH pour recruter. Un avantage en nature, un peu comme un beau séminaire ou une salle de pause sympa. C'était valorisant, mais bon, pas vital.
Alors qu'aujourd'hui ?
Aujourd'hui, face à l'IA, ce n'est plus un bonus, c'est un gilet de sauvetage. Une boîte qui ne met pas à jour son équipe va littéralement couler face aux concurrents qui utilisent ses outils.
C'est une urgence existentielle, oui. Et ça demande à l'État et aux entreprises de revoir totalement leur approche. Le CSE propose d'ailleurs des mesures très concrètes dans son rapport.
Du genre ?
Simplifier drastiquement les formulaires, tout digitaliser, réduire ces fameux délais de remboursement.
Sortir de la logique de guichet.
Voilà.
Instaurer un droit à la formation qui soit clair et opposable pour chaque travailleur.
Mais, et là je me fais un peu l'avocate du diable, est-ce qu'une simple refonte administrative, même super bien faite, ça va suffire ? Je veux dire, un site web plus joli et des délais plus courts, ça ne change pas la culture managériale de tout un pays, par magie ?
Non, bien sûr. La simplification, c'est la base, la condition sine qua non pour restaurer la confiance des PME. Mais le vrai but, comme le souligne le dossier, c'est le changement de paradigme culturel.
C'est-à-dire ?
Changer notre perception de la valeur d'un travailleur. Historiquement, on rémunérait un store de connaissances. Le diplôme disait, c'est bon, il sait construire un pont, faire un bilan comptable.
La valeur, c'était de savoir un instant T ?
C'est ça. Mais aujourd'hui, la nouvelle économie, elle rémunère la capacité à apprendre, parce que le stock de connaissances se périme trop vite.
Exactement. L'agilité intellectuelle, c'est devenu la compétence reine. Le meilleur ingénieur aujourd'hui, ce n'est pas celui qui connaît par cœur l'outil d'hier, c'est celui qui saura utiliser l'outil de demain avant tout le monde.
C'est le cœur du problème. Protéger l'emploi face à ces bouleversements, ça ne passe plus par des barrières légales pour figer un poste dans le temps.
Non, la seule protection sociale valide, c'est la formation constante. D'ailleurs, le rapport note que les pays les plus performants ont scindé la gouvernance de la formation initiale et celle de la formation continue.
Ah oui, c'est séparé, hein.
Complètement. Parce que la pédagogie, l'urgence ou les financements pour apprendre les maths à un ado, ça n'a rien à voir avec le fait de requalifier un technicien de 40 ans en Experia. Le capital humain, c'est un organisme vivant, il s'étiole si on ne le nourrit pas.
C'est fascinant de voir comment tous ces éléments se rejoignent pour dessiner le nouveau marché du travail. En rassemblant toutes les sources de notre exploration, la leçon est d'une clarté redoutable.
Quelle que soit la taille de l'entreprise ou le secteur, ouais.
Que vous soyez artisan local ou cadre de multinationale, l'apprentissage permanent, c'est plus un truc abstrait de colloque. C'est la seule assurance anti-déclassement qui fonctionne vraiment.
Et pour un pays comme le Maroc, l'enjeu de souveraineté économique se trouve précisément là. Ce n'est plus juste une question de fiscalité ou de route goudronnée.
La ligne de démarcation, c'est la vélocité de l'apprentissage.
Un écosystème où les gens apprennent plus vite que le reste du monde, c'est un écosystème inarrêtable.
Et en refermant ce dossier, il y a une réflexion presque sociétale qui s'impose. Quand on regarde notre modèle éducatif actuel, son archaïsme saute aux yeux, en fait.
C'est clair.
On a bâti un système qui concentre 90% de son argent, de ses bâtiments et de son attention sur les 20 premières années de la vie. On entasse les connaissances, on donne le diplôme, et là, pouf, le robinet se coupe.
Et l'individu se retrouve tout seul face à l'obsolescence de ce qu'il a appris.
Voilà. C'est un modèle pensé pour l'ère industrielle, où on faisait le même métier mécanique toute sa vie.
Et où la technologie avançait assez lentement pour qu'une génération puisse faire toute sa carrière avec le bagage de sa jeunesse.
Sauf qu'aujourd'hui, nos carrières vont jusqu'à 65 ans et les cycles d'innovation se comptent en mois. Du coup, l'idée même de ce qu'est l'école devrait être entièrement repensée.
C'est la question fondamentale.
Bah oui, si le but est de survivre au tsunami technologique, est-ce que l'école de demain ne devrait pas consacrer autant d'énergie et de budget aux adultes de 40 ans qu'aux ados ? Si on refuse de voir l'éducation comme un cycle continu, on va juste laisser notre capital humain devenir ce fameux smartphone sans mise à jour.
Un potentiel immense, mais neutralisé par un logiciel périmé.
Exactement. Et pour éviter ce naufrage silencieux, ce n'est plus seulement une question de tirer de la fibre optique, c'est s'assurer que le réseau de la connaissance soit accessible et utilisé par chaque travailleur, chaque jour de sa carrière.